I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Octobre 2008. Bah là, tout allait bien. Puis en quelques jours, alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais je pense que c'est jusqu'au 10 octobre 2008. Alors là, je gérais un portefeuille de produits dérivés qui explose quoi, en quelque sorte. Et c'était compliqué parce que c'était au moment de la faillite de Lehman, donc il y avait plus de... Il n'y avait aucune liquidité dans le marché. Enfin, on ne pouvait pas savoir combien valaient les instruments qu'on avait en portefeuille. Puisque personne ne voulait les acheter, du coup, il n'y a pas de prix. Quoi. Broken, voilà. Closed the market.
Vous vous souvenez de l'année 2008 ? L'année où le monde de la finance et le monde tout court a tremblé. La faillite de Lehman Brothers, la crise des subprimes, l'affaire Kerviel. Boris Picano-Natchi, lui, était justement trader à cette époque. Et il n'a pas fait partie de ceux qui sont passés entre les mailles du filet. Sa banque, une très grosse banque française, lui a fait un procès pour une toute petite affaire de 735 tout petits millions d'euros. Il en a tiré un livre qu'il a intitulé « Regarde le trader tombé ». Et ça, pour tomber, on peut dire qu'il est tombé. Mais est-ce qu'on peut se relever ? Eh bien, à vous de juger. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Boris. Boris, tu as 46 ans. On va revenir un peu sur ton parcours. T'as grandi où, Boris ?
J'ai grandi à Lyon.
Ils faisaient quoi, tes parents ?
Mon père était chanteur quand j'étais petit. Il faisait des chansons, des disques qui ne se vendaient pas, mais qui étaient très belles. Voilà. Et après, il était vendeur. Il vendait des jouets dans les écoles. Voilà. Mais bon, je ne vivais pas avec mon père. Je vivais avec ma mère qui, elle, était employée de bureau au filiale de la Caisse des dépôts et consignations.
Vous parliez d'argent quand t'étais petit ? À la maison.
Alors ma mère en parlait beaucoup parce qu'elle en manquait souvent et du coup voilà, on savait que c'était compliqué les fins de mois.
Vous étiez combien d'enfants ?
On était deux. Oui voilà, je pense que c'était plus des agacements ou des... à la fin du mois c'était compliqué quoi, parfois. Après on est monté à Paris avec ma mère quand j'avais 16 ans, 16-17 ans. Et là, ouais, j'ai fait des maths, j'ai fait un bac S, et après j'ai fait des maths à Dauphine, des maths appliquées.
Et t'avais dans l'idée de devenir trader ?
J'avais pas du tout cette idée-là, parce que quand je faisais mes études, je connaissais pas très bien, c'était très flou pour moi, les débouchés tout court et le monde de la finance encore plus. Et donc non, quand je faisais mes études, je me disais, bon, les maths c'était le seul truc dans lequel j'avais des facilités. Donc j'ai fait ça un peu par facilité. Et puis là, j'ai cherché le débouché où la potentielle rémunération était la plus élevée.
T'avais ça en tête quand même ?
Ah ouais, j'avais ça en tête depuis assez jeune, ouais.
T'avais envie de gagner plein d'argent ?
J'avais envie de gagner de la thune.
C'était un signe de réussite ? C'était de réussite dans la vie ou d'intelligence ou de...
Ah non, pas du tout d'intelligence. Non, c'était plus pour pas en manquer, quoi, pour être tranquille, pour être libre de faire ce qu'on voulait, d'acheter ce qu'on veut.
Ton premier job, c'est quoi ?
On pourrait dire trader ou gérant de portefeuille. Dans une banque. C'était voilà, un grand groupe bancaire français. Ouais. Voilà. Il y a 4-5 grands groupes bancaires français, c'était l'un de ceux-là.
Est-ce que très vite, tu gagnes plein de pognon ?
Je ne me rappelle plus trop du fixe, mais ce que je me souviens, c'est que j'avais fait un an de stage quand même. bon, avec un salaire de stagiaire, hein, donc pas énorme. Et après, j'avais été embauché au mois de juin, je crois. Il y avait des bonus au mois de décembre. Et je sais plus, j'avais un salaire fixe de peut-être 3000 euros par mois, ou, ce qui était déjà pas mal. Et puis, au mois de décembre, au moment des bonus, ben, mon boss me convoque et il me dit « Bon, tu sais qu'il y a les bonus et tout, est-ce que tu sais combien tu vas avoir ?» Mais, et bon, je lui dis « Bah non, je sais pas, 3 mois de salaire. » Et il me dit « Bah non, tiens, regarde. » Et il m'a tendu une feuille, je l'ai tournée, j'avais un an de salaire en bonus. Donc c'était pas mal, ça me faisait 40 000 balles de bonus pour mon premier job. Et ouais, pour moi, c'était beaucoup à l'époque. Bon, maintenant 40 000 euros, c'est... Mais ouais, c'était beaucoup, ouais. J'avais invité ma mère direct à prendre un café. Je lui avais montré le truc, j'étais content.
C'est elle qui avait financé tes études ?
Non, j'habitais plus avec elle pendant mes études. J'habitais avec ma meuf de l'époque. Et je bossais à côté, ouais. J'ai bossé pas mal à côté. J'ai bossé dans les cuisines d'Euro Disney, les week-ends et vendredis soir. Je tenais des cours de maths. Après, j'étais caissière chez Auchan. Après, j'étais pion.
T'étais autonome financièrement depuis très longtemps.
En fait, j'ai commencé à bosser au lycée. Quand j'étais au lycée, quand j'avais 16-17 ans, bon, c'était un petit boulot, mais je bossais les mercredis après-midi et le week-end dans une école de sport, je m'occupais d'enfants.
Bah là, tout d'un coup, t'es trader directement, ça veut dire que directement tu manies de l'argent ?
Je manie pas de l'argent, mais des produits financiers, quoi. Des instruments financiers, avec des grosses sommes.
Est-ce que tu arrives à les intelliger, ces grosses sommes ? Est-ce que très vite, tu arrives à comprendre ? Est-ce qu'elles sont réelles, en fait, quand tu les manipules ?
C'est un peu le problème avec les marchés financiers, c'est que c'est un peu complexe. C'est comme quand on parle du PIB de la France, il y a des gens qui confondent ça avec la richesse de la France, alors que c'est un revenu. Enfin, et il y a un peu le même problème dans les marchés financiers, c'est que parfois, il y a des expositions qui sont colossales, mais en fait, avec des flux financiers qui sont, au final, beaucoup plus petits. Je te prête... 1 million, bah 1 million c'est beaucoup, mais en fait toi tu vas me payer que des intérêts, je sais pas, de 1%, donc tu vas me payer. Donc en fait les flux que ça va générer sont beaucoup plus petits.
Le monde des traders, c'est un monde particulier, non ? À cette époque-là en plus.
Moi je dirais pas ça. La grande époque des traders pour moi c'était plus années 80 et 90. Et à partir du début des années 2000, avec notamment le crash l'explosion de la bulle Internet, ça a commencé à changer pas mal de choses quand même. Ça a commencé à être beaucoup plus régulé, surveillé. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu l'euro, le passage à l'euro à ce moment-là, au début des années 2000. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont fait que, je dirais que l'âge d'or, où c'était un peu n'importe quoi, c'était un peu le Far West des marchés financiers, c'est plus années 80 et 90. Moi, quand je suis arrivé, année 2000, c'était déjà plus normal. Il y avait moins de cow-boys. Il y avait déjà des études de finance. En fait, dans les années 80, les gens qui bossaient sur les marchés, ils n'avaient pas fait des études de finance puisque ça n'existait pas. Enfin, les marchés financiers, c'était nouveau. Alors qu'en 2000, les nouveaux qui étaient embauchés sortaient tous de formation.
Mais les salaires restaient, et les bonus surtout, restaient très élevés. Au max, tu gagnais combien ?
L'année où j'ai le plus gagné, je devais être à 180 000 euros, tout compris.
Tout compris.
Oui, c'est beaucoup, ouais. Mais c'est pas 2 millions d'euros. Il y avait des gens à Paris qui gagnaient 2 millions d'euros. Enfin, tu vois, ouais.
Est-ce qu'il y a une excitation du fait de réussir à bien placer de l'argent ou à faire des mouvements qui rapportent ?
Que ce soit de l'argent ou pas, il y a la conscience professionnelle. Quoi. C'est comme le pâtissier, quand il fait un bon Paris-Brest, je pense qu'il est content... Il est content de lui. Nous, c'était pareil. Sauf que c'est vrai que les traders, comme le sous-jacent, c'est pas de la farine et du sucre, mais c'est de l'argent, ben, les gens ont un regard particulier là-dessus, alors qu'en fait, on cherchait juste à bien faire notre métier. Quoi.
Bah après, ton bonus à toi, il devait être indexé sur justement...
Pas tant que ça, non. Non, ah ouais non, pas tant que ça.
C'est pas, tu
faisais oui, bah, bien sûr, si je faisais une bonne année, j'avais un meilleur bonus, mais c'est, je veux dire, c'était pas un pourcentage ou c'était pas... Voilà.
On a vu des films, plein de films sur la finance à cette époque-là, justement, à cause de 2008. On a l'impression d'un milieu de mecs un peu fous, qui claquent des bouteilles de champagne et prennent plein de coke. C'était comme ça ?
Je pense que, là encore, il y a une confusion des époques. Je pense que ça a été comme ça, peut-être au début, dans les années 80-90. Sachant que dans ces années-là, c'était comme ça un peu partout, pas que dans les marchés financiers. Enfin, tu vois, tu lis 99 francs, apparemment c'était comme ça dans la pub. Tu regardes les gens qui étaient à Canal+ à l'époque, je pense que c'était un peu comme ça aussi. Enfin voilà, donc c'était un truc plus d'époque que de milieu. Et après, dans les années 2000, je le dis à un moment dans mon livre, moi j'étais plus avec des ingénieurs de centrale et de polytechnique qui étaient mariés avec deux enfants, avec des mecs qui... Donc,
oh, c'était pas super funky.
Non, c'était pas,
c'était pas funky.
Et je pense que les films qu'on a vus... Ouais, exactement, ouais. Et je pense que les films qu'on a vus comme ça, c'était plus... D'abord, c'était pas des banquiers, c'est plus... Enfin, en gros, je pense que t'as en tête, par exemple, le Loup de Wall Street.
Je pensais à même Margin Call ou...
Margin Call, pour le coup, c'est un peu... je trouve ça assez réaliste. Ça ressemble plus à...
Ouais, ils sont dans des open space.
C'est des open space, ils discutent, c'est des mecs en costard, tu vois, ils sont pas là. Moi, c'est plus, en tout cas, ce que j'ai connu.
Est-ce que le fait que tu, tout d'un coup, tu gagnes beaucoup d'argent par rapport à ce que tu gagnais quand tu faisais tes études,
ouais,
en rentrant dans ce monde de la banque, est-ce que ça change ta sociabilité ?
Pas du tout. C'était pas des sommes telles que, tu vois, où c'est... Encore une fois, c'était beaucoup pour moi, mais 40 000 euros, quand tu commences à bosser, bon, les gens à côté de toi, ils en gagnent 25 ou 30 000. C'est pas des écarts qui font qu'on commence à évoluer dans des mondes complètement différents, quoi.
Et comment tu le dépenses, alors, cet argent ?
Bah, au début, j'ai fait la fête. En fait, j'ai acheté un appart à Levallois. Et après, je sortais énormément à cette époque-là.
Donc, t'invitais beaucoup, tu payais des
J'invitais, j'invitais les gens, je me faisais plaisir, j'achetais des fringues. Ouais, j'ai pas mal claqué. D'ailleurs, au début, c'était... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Et en fait, le bonus, bah, tu reçois une grosse somme d'un coup que t'as tendance à claquer. Mais après, les impôts... Donc, j'ai mis 2-3 ans à... Avec les impôts, à ce que ce soit bien carré, c'était compliqué au début.
T'es plutôt cigale, t'es plutôt, t'as fait un côté fourmi, t'achètes l'appart.
Ah ouais, je suis cigale, ouais.
Et après, t'as fait youpi, quoi, t'as pas mis de côté.
Ah ouais, toute ma vie, ouais. Il y a que maintenant, parce que mon fils commence à grandir, je me dis, bon, ce serait peut-être pas mal qu'il ait un petit truc pour débuter, quoi. Donc j'essaye là un peu de mettre de côté, mais sinon, ouais, je suis cigale. Je bossais pas mal après, pas non plus tant que ça. En fait, les marchés financiers ferment assez tôt, ferment à 5h30. En gros, je bossais moins que les mecs, tu vois, que les avocats d'affaires, qui se finissaient à 3h du matin, hein, parce qu'ils avaient des... Nous, c'était... oui, parfois, on pouvait faire des grosses journées, mais c'était pas systématique.
Le week-end, tu travailles pas ?
Le week-end, je travaillais pas. Et dans la banque, on a beaucoup de vacances.
Ah bon ?
C'est toujours le cas. Ouais. Ouais, ils ont des... Je ne sais plus comment on dit, là.
Des conventions collectives.
Conventions collectives très avantageuses, ouais.
Ouais. Donc, ça dure quand même un moment, tout ça, hein ?
Tout ça, ça dure... ben, en fait, je suis rentré en stage en 2002... Enfin, 2001. J'ai été embauché en 2002. Et ça a duré 6 ans, donc. 6 ans et demi.
Jusqu'à ce mois d'octobre 2008.
Voilà. Octobre 2008. Bah là, tout allait bien. Puis, en quelques jours, alors j'ai plus exactement les dates en tête, mais je pense que c'est jusqu'au 10 octobre 2008. Alors là, je gère un portefeuille de produits dérivés qui explose, quoi, en quelque sorte. Et c'était compliqué parce que c'était au moment de la faillite de Lehman, donc il n'y avait plus de. Il n'y avait aucune liquidité dans le marché. Enfin, on ne pouvait pas savoir combien valaient les instruments qu'on avait en portefeuille. Puisque personne ne voulait les acheter, ben, du coup, il n'y a pas de prix, quoi. Broken, voilà. Closed the market. Et ouais. Et du coup, la banque prend la décision de solder le portefeuille, de tout fermer et de tout vendre, quoi, à la casse.
Toi, tu comprends ce qui se passe à ce moment-là ?
Oui, oui, moi je comprends très bien, oui. Oui, si, on savait que c'était mondial. Après, comprendre, c'est-à-dire dans le sens les implications, le montant des pertes qu'il va y avoir dans les banques, etc., ça non, à l'époque, on n'a pas trop la vision, quoi. On sait que tout va mal, c'est un peu comme aujourd'hui, tu vois, avec l'Ukraine, le gaz et tout, bon, on voit que c'est le bordel. Maintenant, aller dire que aujourd'hui que telle compagnie pétrolière va faire faillite ou que tel pays va être impliqué, on peut pas prédire l'avenir, quoi. Mais on sait que c'est le merdier.
Le moment où le crash arrive, le moment où tu vois tes positions qui sont en train de s'effondrer, t'en parles avec tes collègues, tout le monde vit la même chose ou t'as l'impression que c'est éventuellement toi qui as fait des conneries?
Ah bah, alors moi j'ai fait des... Oui, j'ai fait des erreurs, bien sûr. Enfin, quand tu perds de l'argent, c'est comme un pilote qui fait une sortie de route. Bon, il peut y avoir des raisons, mais bon, il a mal conduit, quoi. Après, effectivement, le truc, c'est que c'était pas une route ensoleillée, voilà, c'était... Voilà, il y avait une tempête tropicale, je devais ramener un bateau à mon port et j'y suis pas arrivé, quoi, voilà.
Je t'ai entendu dire que t'allais... au bureau avec la boule au ventre.
Alors, la dernière semaine, oui, parce que, en gros, moi, je sais que je perds de l'argent, je sais plus, je crois que c'était le vendredi 10, hein, de souvenir. Et bon, là, je dis à mes boss, c'est bon, je démissionne, j'arrête. Et eux me disent, non, faut que tu continues à venir. Et donc, après, pendant, je me rappelle plus exactement, mais je pense une bonne semaine, voire deux, j'ai continué à aller au bureau. En sachant que j'avais plus le droit de traiter, donc que j'étais un peu exclu de la salle, j'avais plus le droit de rentrer dans la salle, etc. Toute la journée, j'avais des réunions avec tous les services de la banque, la commission bancaire, l'AMF. Enfin, des trucs pas agréables, où tu dois t'expliquer à des gens qui comprennent pas forcément tout, qui connaissent pas le fonctionnement de la banque. Enfin voilà, tout, c'était compliqué. C'est comme si
dans le bureau du surgé toute la journée.
T'avais une garde à vue tous les jours. Donc là, cette période-là, oui, j'avais une boule au ventre. C'était hyper stressant. En plus, je savais pas combien au final on allait perdre, parce que la banque a pris la décision de solder le portefeuille, mais ça a pris plusieurs jours. Donc chaque jour, j'avais l'ardoise qui augmentait. Enfin, ouais, c'était stressant. Ouais.
On arrive à combien de millions?
Alors moi, quand je suis parti, c'était 510 millions d'euros de pertes. Et après, ça a continué à monter. J'apprenais ça dans la presse. Hein. Et donc la perte finale, officielle, c'est 750 millions.
Est-ce que tu penses déjà à ce moment-là qu'on peut te le reprocher
juridiquement? Non. Au début, non. Au début, je pense pas du tout au truc juridique. Je pense que bon, bah, j'ai perdu mon boulot, que je vais être cramé dans la banque, etc. Bon, après, en fait, très vite, il y a d'autres cas un peu pareils. Il y a plein de portefeuilles qui ont perdu des montants même plus importants que ceux-là. Hein. Là encore, en fait, c'était qu'à l'époque, les gens parlaient des traders, etc. En fait, tu vois, si tu vas chez Carrefour et que le rayon poissonnerie perd de l'argent... C'est pas pour autant que Carrefour va perdre de l'argent. Et bah, nous, c'était pareil. Enfin, tu vois, l'année de Kerviel, la Société Générale n'a pas perdu d'argent. Elle en a gagné moins, mais il y a plein d'autres banques où les gens qui avaient des activités un peu similaires à la mienne ont également perdu beaucoup d'argent. Donc, à ce moment-là, voilà, je me dis, bon, ça va être compliqué et tout. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais perdre mon boulot. Bon.
T'as de l'argent de côté, justement, à ce moment-là ?
Non, zéro. Parce que j'étais marié. Je venais de me marier avec la mère de mon fils qui avait trois grands enfants.
Elle travaillait ?
Oui, elle travaillait, mais bon, voilà, on vivait bien, voilà, on partait en vacances, on se faisait plaisir. Donc non, j'ai pas trop mis d'argent de côté. Mais ouais, vacances.
Tu plaquais dîner, tout dans le quotidien, quoi.
Tout dans le quotidien.
Ouais.
Tout pour le kiff. Donc il y a ça, il y a le fait que. Bah, que tout s'arrête, que t'as un train de vie, tu te dis merde, comment je vais faire ? Enfin voilà, c'est un peu. Tu te retrouves au chômage, ouais.
Donc tout d'un coup, t'étais super occupé, puis t'es plus occupé.
T'es plus occupé. Alors le truc, ce qui s'est passé, c'est que mon fils est né... Il est né prématuré, mais 3 mois après. Donc ça, c'était genre le 10 octobre, et il est né le 19 janvier, donc... Le 29 janvier, pardon. Et du coup, je me suis occupé de mon fils. Ça, c'était cool. J'avais du temps pour lui, du coup. Voilà.
T'avais plus d'argent, mais t'avais du temps.
J'avais... Et voilà, bah, exactement. Bah, alors ouais, je me dis que je vais changer de boulot. Après, le truc, c'est qu'il y avait une procédure judiciaire en cours. Et c'est ça, en fait, qui a été le plus pesant parce que bah, tu sais pas combien de temps ça va durer. Le président en poste a été viré et c'est une fois qu'il a été viré, le nouveau a porté plainte. Voilà, bon, après, il y a des enjeux.
Bah c'est quand même un truc que je comprends pas très bien. Pourquoi est-ce que toi, par exemple, tu te retrouves à être inculpé et pas d'autres
J'ai que des hypothèses. Hein. J'étais plus dans la banque, j'ai jamais parlé aux dirigeants qui ont porté plainte contre moi. Je pense que... Mais bon, j'ai quand même parlé à des gens qui m'ont aidé pendant la procédure, etc., qui étaient encore dans la banque, qui étaient assez haut placés dans la banque, etc. C'était au moment où les banques étaient aidées par les États. Enfin, donc, il y avait une dimension politique qui était bien au-delà de moi et du trader qui a perdu de l'argent. Donc, la banque, elle devait un peu, en termes d'image et de politique, se couvrir, entre guillemets. Et après, il y a un enjeu financier parce que si une entreprise est victime de fraude, et en particulier une banque, elle peut récupérer un tiers du montant de cette fraude en crédit d'impôt. Et en fait, si une boulangerie, un mec vole dans la caisse d'une boulangerie, bon, et que le mec veut faire une procédure, ça va lui coûter plus cher en avocat que les 15 euros qu'a volé le mec. Alors que, bon, dans nos cas à nous, c'est des montants tels que si la banque, si elle récupérait un tiers, bah, c'est 250 millions d'euros. Donc c'est pas des montants négligeables.
En crédit d'impôt, donc c'est même pas toi qui lui donne.
Non, c'est pas moi qui lui donne, c'est le contribuable. Et donc la banque, voilà, récupère un tiers. Et donc je pense que ces deux éléments, à la fois politiques pour se protéger, parce que c'est mieux de dire, on a un trader fou, surtout à l'époque, voilà, qui a fait n'importe quoi, que d'assumer, dire, bon, voilà, il y a eu des dysfonctionnements, même si moi j'assume ma part de responsabilité, mais je pense que la banque a pas assumé la sienne. Et après, il y a des enjeux financiers. Et après, les enjeux financiers, moi, je pense même que ça redescend au niveau des avocats. Parce que je pense que, quand tu connais ce mécanisme, si tu es un grand avocat pénaliste d'affaires, qui était en plus un des avocats de la Société Générale dans l'affaire Kerviel, l'avocat qui a défendu la banque dans mon cas, moi, je pense que c'est possible qu'il ait appelé la banque en disant, tiens, vous savez que... si on arrive à le condamner, vous récupérez un tiers. Bon, lui, je ne sais pas comment sont calculés ses honoraires, mais s'il a pris même 1% de ce qu'il a fait récupérer à la banque, pour lui, c'est une belle histoire. Donc bon, tout ça, ce sont que des hypothèses. Hein, mais...
T'es surpris quand tu te retrouves avec une petite lettre qui arrive dans ta boîte aux lettres ou un mail qui te signifie que tu as une
procédure? Oui, j'étais surpris. Parce qu'en fait, moi, j'avais les news dans la... par la presse, en fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Nicolas Sarkozy, qui était le président de l'époque, et Christine Lagarde, qui était la ministre des Finances de l'époque, ont commencé à commenter cette affaire en disant « Oui, il faut des responsables. Bon, comme d'hab, Donc, quand il y a des trucs politiques, quoi. Oui, il va y avoir des enquêtes, les responsables vont... Voilà, donc quand ils disent ça, je pense que toute la chaîne hiérarchique au-dessus de moi commence à serrer les fesses. Et à se dire, même s'ils ne voulaient pas à la base, se disent, va falloir que quelqu'un prenne, faut que ce soit lui. Mais je ne pensais pas que ça allait aller jusqu'à une plainte au pénal. Et après, ils annoncent que la banque porte plainte contre X, mais même quand ils portent plainte contre X, je me dis, X, ce n'est pas moi. Moi, j'avais vraiment le sentiment d'avoir rien fait. Donc, d'ailleurs, après, j'ai été convoqué au commissariat, à côté de chez moi.
Donc là, tu te retrouves avec des flics en face de toi?
Je savais même pas. Enfin, j'avais quand même vu une avocate avant, une pote, deux potes, qui m'avait été présentée vite fait, qui m'avait dit, c'est possible qu'ils te gardent en garde à vue, je sais pas. Mais j'avais même pas vraiment d'avocat officiel. Je suis pas allé avec un avocat. Je pensais pas que ça allait faire tout ça, quoi.
Ils te demandent quoi, les flics?
Bah là, les flics, ils te mettent en garde à vue, donc ils te disent, bon, voilà, bim, ouais. Voilà, on vous signifie les 8h06 que vous êtes en garde à vue, donnez vos lacets, vos ceintures, votre téléphone portable, voilà.
Ça, c'est combien de temps après t'as été viré ?
Si, je me rappelle, je crois que c'est la veille de mon anniversaire, donc je crois que c'est le 24 octobre, donc 2 semaines après la perte. En fait, il y a eu une semaine où il y a eu, je continue à aller à la banque pour voir, voilà, j'ai vu la commission bancaire, etc. Après, ils ont soldé le portefeuille, et la semaine suivante, il y a eu toutes les annonces des politiques et tout, et en fin de semaine, ils portent plainte, et je pense que... Voilà,
donc tout, tu vas au commissariat, tu y restes, en fait.
Et après, j'y reste, et là, après, ils m'emmènent dans le 13e, où il y a la brigade financière, là, ce qu'on appelle le château des rentiers.
Et on appelle ça le château des rentiers ?
C'est parce que c'est historique, en fait, qu'il y avait un château, et que c'était la rue des Rentiers, enfin je ne me rappelle plus l'historique, mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit la brigade financière. Okay. Mais ça tombe bien, c'est rigolo.
Ok.
Et
ils sont sympas les gens de la brigade financière ?
Écoute, oui, franchement, je ne suis pas pro-flic, loin de là, mais en l'occurrence, celle que j'ai rencontrée, elle était très cool. D'ailleurs, c'est la même qui avait interrogé Kerviel.
Elle s'y connaissait.
Et bon, elle s'y connaissait comme, enfin, c'était quand même des instruments très complexes, etc. Mais oui, elle avait une connaissance quand même un peu des marchés financiers. Et là, on parle, surtout de la stratégie, pourquoi j'avais pris telle et telle décision, etc.
T'avais
dans
pris des
dans le contexte
en fait
de l'époque. Oui, j'avais pris un peu de risque, mais qui était, comment dire? En gros, pour éviter de perdre en cas de guerre en Ukraine, je m'étais dit, je vais protéger ça. Et par contre, je perdrais plus si Moscou envoie une bombe sur New York City, quoi. Et Moscou a envoyé une bombe sur New York City, et voilà.
Et là, tu commences à prendre assez vite un avocat, j'imagine.
Oui, oui, tout à fait. En plus, j'étais vraiment pas inquiet, quoi. Je me disais, ils ont rien, enfin, j'ai rien fait. Fin...
Ah, tu pensais que ça allait durer 2 semaines
Ouais, et en fait, non, il y a eu 4 ans pour sursis judiciaire, une condamnation au bout, ouais, ça a été... Mais petit à petit, si, je veux dire, la 4e année, je me doutais de ce qui allait se passer, mais c'est vrai qu'au début, le procès, ça a été tellement une mascarade que je pensais pas, quoi. Et d'ailleurs, dans le jugement, qui est public, hein, donc tout le monde peut aller le chercher si ça les intéresse, ils disent que j'ai pas fraudé, mais que, en gros, je faisais des opérations complexes et que donc, à part moi, personne ne comprenait ce que je faisais dans la banque et que donc j'en ai profité. Voilà.
Le quotidien change un peu, j'imagine. T'es au chômage, t'as des frais d'avocat.
Ouais. Ouais, là, c'était compliqué.
Tu sais pour combien de temps t'en as eu de frais d'avocat, à peu près ?
Je sais pas, entre 40 et 50 000 euros, je pense.
Ah, ouais. C'est quand même beaucoup quand t'as plus justement les bonus et
ouais,
les beaucoup, salaires
ouais.
de trader,
ouais.
quoi.
Ouais, c'est beaucoup. Mais oui, j'avais un appart que j'ai vendu, j'ai vécu avec ça pendant un temps, j'avais des crédits, je me suis retrouvé bloqué, des menaces de la banque, ouais, c'était compliqué, ouais. Une carte électron. Après, ça a fini que je me suis séparé, d'ailleurs, et que je me suis retrouvé dans un studio avec ma carte électron. Et voilà, quoi.
Ça t'angoisse ?
Au début, oui, ça m'angoisse beaucoup, parce que quand je me suis séparé, je me suis séparé d'abord parce que j'étais angoissé, qu'à deux, on n'arrivait plus à... Moi, j'arrivais plus. Enfin, en gros, je perdais de l'argent, j'avais plus rien de côté. Quand je suis arrivé à zéro avec ma carte bloquée, j'ai dit, là, faut faire un truc, et... Donc ouais, je me suis séparé. La chance que j'ai, c'est que ma mère avait un studio à Paris dans lequel j'ai pu habiter. Mais j'étais angoissé parce que je me disais, mais comment je vais... Enfin, moi, j'étais quand même très, très proche de mon fils parce que je m'en étais beaucoup occupé. Enfin, sa mère aussi, hein, mais c'est vrai que comme je travaillais pas, c'est moi qui me levais la nuit. Et du coup, je me disais, putain, mais dans un studio, il va être pas bien. Moi, j'ai plus d'argent. Je savais pas trop comment j'allais faire, quoi. Et en fait, ça s'est fait. En fait, c'est l'inconnu qui fait peur. Après, une fois qu'on y est, les choses, elles se font, quoi. Et après, la chance que j'ai, je pense, c'est que je viens pas non plus d'un milieu de ouf. Donc c'était pas non plus grave d'être en basket et de manger des pâtes, enfin, tu vois.
Ah ouais, t'avais pas l'angoisse du mail, du coup de fil du banquier ou de la perte?
Ah si,
ou
si,
de la dette.
Si, ouais, j'avais l'angoisse, sauf qu'au bout d'un moment, quand ils t'ont trop cassé les couilles, tu te dis, bon, bah, faites ce que vous voulez, je m'en fous, enfin, à un moment donné. Voilà, et voilà, de toute façon, j'avais une carte électron, donc après, quand t'as une carte électron, tu peux pas dépenser plus que ce que t'as.
Et c'est quoi, à ce moment-là, quand t'as plus rien, quand t'es dans le studio de ta maman, tes revenus, c'est quoi?
Bah, au début, j'avais vraiment rien, donc je suis arrivé à bosser par-ci, par-là, je gagnais 1000 euros, 1005, par-là, et en fait...
Genre à faire quoi?
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit site internet, donc des fois j'arrivais à avoir un petit contrat de pub, machin. Mais c'était vraiment petit. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que très vite, j'ai donné des cours. Parce qu'en fait, je donnais des cours à Dauphine. Bah, très vite, j'ai pu redonner des cours. Et donc, ça m'a fait quand même un petit revenu, même si c'était pas énorme. Et après, j'ai eu de la chance, parce que dans l'école où j'étais, il y a un prof qui s'est cassé. Du coup, ils ont pu me prendre plus.
Il y a un switch quand même entre le moment où tu commences, parce que finalement ça n'a pas duré si longtemps en fait, trader. T'es resté
6 ans et demi. Ouais.
Six ans et demi.
Ouais.
Donc à peine t'as commencé à goûter au plaisir d'une vie de bureau accompagnée d'une vie familiale bourgeoise bien nantie, que pouf.
Ça pète.
Ouais. C'est vraiment le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard.
Exactement.
Ouais.
Ouais, exactement. Ouais. Après, le studio, oui, c'était stressant. Hein. Non, franchement, le fond du fond, je pense, je me rappelle, c'est que bah, mon fils, je l'avais tous les week-ends. Au début, on s'était mis d'accord comme ça avec mon ex. Et un soir, le vendredi, donc je le ramène à Paris et on fait les courses pour le week-end et ma carte, elle passe pas. Et là, je me fais, oh putain, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et heureusement, j'avais des chèques et je me suis rappelé qu'au Monoprix de Villiers, ils prenaient les chèques. Donc je suis allé là-bas, j'ai refait les courses, tac, et quand je suis rentré dans l'appart, mon fils était trop content, mais il était petit. Hein. Il avait 6-7 ans, il m'a fait « Ah, t'as les courses !» Et là, je me suis dit « Bon, là, faut arrêter les conneries et tout. » Et voilà. Mais j'ai eu de la chance parce qu'il y a des gens qui m'ont aidé, quoi, qui m'ont donné du boulot, qui m'ont permis d'enseigner assez rapidement.
Est-ce qu'il y a eu le tri
des copains? Qui m'ont donné des heures.
Entre ceux qui...
il y a eu le tri des copains, ouais. Après... en gros, il y a eu le tri entre les copains et les amis, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens que je voyais un peu liés à mon milieu professionnel, on va dire, que je voyais beaucoup, qui étaient devenus des potes, que j'ai plus vus ou j'ai plus de nouvelles du jour au lendemain.
Du jour au lendemain?
Du jour au lendemain, ouais. Ah, vraiment du jour au lendemain. Il y en a d'autres qui ont continué à m'appeler, à déjeuner avec moi une fois par an et tout, ça fait plaisir. Et après, ça m'a rapproché d'amis que j'avais un peu peut-être perdu de vue parce que... parce qu'on avait nos vies, notre boulot, qu'on avait moins le temps, ou en tout cas on prenait moins le temps de se voir, et du coup ça nous a rapprochés. Après j'ai fait plein de rencontres, en fait, mon monde a vraiment changé, donc j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des meufs, du coup, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Enfin, du coup,
tu t'es séparé, donc t'as rencontré des nouvelles meufs. Voilà, t'as réussi à draguer en ayant des gros problèmes de thunes et de l'angoisse avec un procès sur le dos et tout, quoi. T'as pas déprimé trop, en fait. T'as rebondi assez
rapidement. Non, j'ai pas déprimé, ouais. Je suis angoissé, quoi. Oui, des fois, j'étais préoccupé, mais j'étais pas déprimé. Je sais pas comment dire. Parfois, j'étais un peu... Peut-être pas marrant parce que avec ma famille ou quoi, parce que j'étais préoccupé. Mais j'étais pas déprimé et en fait c'est une période où j'ai rencontré plein de gens qui sont des amis aujourd'hui, des gens qui m'ont aidé. J'ai une copine qui avait une maison magnifique dans le 19e, qui m'a pris chez elle, qui me demandait jamais rien, qui me faisait c'était ouf. Et j'ai rencontré plein de gens comme ça aussi.
Est-ce que tu es en train de me dire que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que tu aurais eu une vie un peu plus ennuyeuse
Ah ouais, mais j'en suis persuadé. Non, mais je suis hyper... Enfin, c'est-à-dire, je sais que ça a été brutal pour mes proches, c'est ça que je regrette, et notamment pour les enfants de... Enfin, les frères et sœurs de mon fils, pour leur maman, pour... Bon, il y a des gens... Mais pour moi, au final, avec le recul, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé de ma vie. Enfin, je suis désolé de dire ça pour la banque. Eh, désolé, hein, mais bon, en vrai, oui, c'était.
Si t'avais suivi la vie sur les rails, t'auras, ça aurait peut-être pas été.
Bah, aujourd'hui, quand je les vois, ils se font chier, ils ont pris du bide, ils sont toujours pareils, ils voient toujours les. Enfin, ouais, ouais. Franchement, mais oui.
Alors, il y a eu le procès quand même.
Il y a eu le procès.
On doit être en 2012 à peu près,
2012,
4 ans plus tard.
2012, ouais, c'était compliqué. 2012.
C'est le moment carte électron, en fait.
Et c'est le moment carte électron, là. C'était la fin, en fait. C'est tombé un peu au moment où je me suis séparé de la mère de mon fils aussi.
Ah, t'étais vraiment dans le creux de la vague.
On
en
a
fait.
Eu d'autres soucis qui ont fait que. Après, ouais, c'était un peu compliqué, ouais. Ouais, j'étais un peu à gauche, à droite. Il y a les parents d'un pote qui m'ont prêté leur appart pendant 2 mois, un été, je me rappelle plus quand, mais.
Ouais, c'était un peu comme ça. Tu demandes service, t'essayes de.
Ouais, j'étais. C'était compliqué. Là.
Et tu t'attendais à être condamné à ce moment-là, quand même, alors ?
Ouais, ouais, là, je savais, oui.
Avec ton avocat, t'avais dit.
Non, en vrai, on aurait pu le gagner le procès. Après, c'est plus. Franchement. Je pense que l'avocat de la banque était très sûr de lui tout. Je pense qu'il a un peu serré les fesses. Après, il a le bras long, ils ont le bras long. Il y avait des enjeux qui faisaient que... Après, ouais, je savais parce qu'après, une fois qu'on est dedans, on voit comment fonctionnent les juges, la justice. Et en fait, dans ce genre d'affaires, ils veulent pas prendre de risques. Et je les comprends quelque part. Je leur en veux pas aujourd'hui.
Mais alors, t'as été condamné à payer beaucoup de millions.
315 millions d'euros de dommages et intérêts. Voilà. Et j'ai pris 2 ans avec sursis. C'est du sursis, donc tu t'en fous, en fait. C'est comme si t'as rien. Sur le coup, ça m'a fait un truc. Après, je m'y attendais, donc voilà. Et puis, après, il y avait quand même la... Après, je savais que c'était symbolique, quelque part. Et que la banque n'allait pas me demander ça. De toute façon, je ne les avais pas. Enfin, j'étais incapable de payer ça.
Kerviel avait eu cette phrase. Il avait dit, à partir de maintenant, tout ce que je gagne, ça va dans la poche de la Société Générale.
Ben, ça, c'est ce qu'il a voulu faire croire, mais ce n'était pas vrai. En fait, Kerviel, en gros, lui, non. La banque ne lui a rien demandé. Et c'est parce qu'il a continué. Il les a quand même... Après, c'était sa politique. Moi, je peux le comprendre. Mais c'est vrai que je pense qu'il... S'il n'avait rien fait... Il n'aurait jamais payé ça. Et en fait, quand il y a eu l'appel, les juges ont baissé son amende de 4 milliards à 1 million. Et lui a présenté ça, j'imagine par fierté, comme une victoire. Mais en fait, quand tu lis le jugement, ils l'ont fait pour qu'il puisse les payer. Et là, ils ont commencé à lui saisir son salaire. Et d'ailleurs, depuis cette époque, tu n'entends plus Kerviel dans les médias. Du jour au lendemain. Alors que le mec, il a fait plus de 20 heures que Fillon... Et du jour au lendemain, tu ne l'as plus entendu parce que, bah oui, j'imagine que quand tu te retrouves. Enfin, moi, je l'ai un peu vécu, 40 piges, t'es interdit. Là, on te saisit vraiment. Bah, je pense que là, du coup, il a dit ok, j'arrête. J'espère pour lui, en tout cas, que ça s'est passé comme ça et que maintenant, il est tranquille et que c'est derrière lui. Mais...
Alors, on te saisit, ça se passe comment, concrètement?
Non, moi, on m'a rien saisi. Moi, on m'a rien saisi.
T'as pas eu les huissiers, t'as pas eu.
J'ai
la
pas eu les huissiers.
T'as pas eu de la retenue sur salaire, t'as pas eu.
Non.
Donc, tu dois 315 millions et voilà. Rien.
Et c'est tout. Et rien, en fait, c'est symbolique. Après, là, je peux pas tout dire en enregistrement.
C'est un peu ce que disait Bernard Tapie quand il disait quand tu dois 100 euros à la banque, t'es pauvre. Quand tu dois 10 millions, t'es riche, en fait.
Bah oui, parce que c'est... Oui, c'est ça.
Donc, en fait, ce qui a été compliqué, ça a été d'abord d'encaisser tout ça, la violence judiciaire et éventuellement professionnelle, de se faire virer, etc., et la perte de revenus, mais après, c'est une reconversion, en fait.
Ouais, exactement, ça a été une reconversion, une nouvelle vie, j'ai rencontré plein de gens incroyables. Le studio, j'ai beaucoup angoissé au début et tout, mais en fait, mon fils, après, j'ai habité dans le 11e, l'endroit qu'il a préféré, c'était le studio, parce qu'il était, on était tous les deux, il était avec son papa, on dormait tous les deux, et lui, il a kiffé, c'est ses meilleures années. Et en vrai, moi aussi, parce que ce studio, j'y étais que le week-end avec lui. La semaine, j'y dormais jamais. J'étais toujours chez des copines ou chez une copine. Ou...
Ton fils, il a quel âge maintenant ?
Il a 13 ans.
Et il sait ce que tu as vécu à ce moment-là, j'imagine ?
Il m'en parle peu. Quand il me pose des questions, je lui réponds. Après, il a toujours eu mon livre sur sa table de chevet. Bon, moi, je trouvais que c'était un peu tôt, mais bon, voilà, sa mère, j'imagine qu'il l'avait demandé. Il l'avait, donc je sais pas ce qu'il a lu, pas lu, il m'en parle pas trop. Mais oui, je sais qu'il en a entendu parler, il me pose des questions parfois.
Aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie ?
Aujourd'hui, je gagne bien ma vie, ouais.
C'est quoi, t'es dans une fourchette de 3-5 000 ?
Je sais pas si j'ai envie de le dire, en fait. C'est plus vis-à-vis de mes clients, de...
Ah, tu fais du consulting ?
Ouais, je suis indépendant.
Donc on te refait confiance ? Dans la finance ?
Écoute, oui.
Donc finalement, t'es pas cramé ?
Je suis pas caché, quoi. Les gens connaissent mon histoire... Et certaines personnes me font confiance. Après, je te dis pas que... tu sais, quand on cherchait cet appart-là, on avait vu l'appart de nos rêves qui était plus vers Porte d'Anières, qui était hyper bien et tout. Et voilà, on a fait un dossier, on a été pris, on devait avoir l'appart qui était vraiment parfait parce qu'il y avait une chambre pour nos deux fils. Et puis la veille où je dois aller récupérer les clés, le mec appelle, il dit non, le bailleur a vu qui vous étiez, il veut plus vous louer l'appart et tout. Je fais ah bon. Et en fait le bailleur c'était une filiale, enfin une ex-filiale de la banque pour laquelle je bossais. Et voilà, et ça c'était il y a 6 mois, hein, donc c'est plus quasi 15 ans après, tu vois. Donc il y a encore des mecs qui sont soit rageux, soit je sais pas, qui ont pas confiance ou.
Est-ce que ça t'a très vite saoulé quand on te compare à Kerviel ?
Bah oui et non, enfin, c'est-à-dire lui il est sympathique et j'ai rien contre lui et j'ai rien contre les repris de justice en général. Après ce qui me dérange c'est que c'est des affaires quand même différentes, voilà. Et c'est pas à lui faire offense, je pense, de dire ça. Parce que dans mon cas, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de dissimulation et c'est écrit dans le journal.
Est-ce que la finance peut t'effrayer maintenant ? Je sais pas. Est-ce que tu peux te dire... Il y a eu Lehman Brothers, enfin tu vois, il y a eu ce crack-là, ça peut recommencer ou,
je pense,
est-ce
je,
que t'as moins confiance ?
Oui, après, il peut toujours y avoir des trucs, mais tu sais, des cracks, il y en a toujours eu. Là, le secteur financier, enfin le secteur bancaire en particulier, a une place spéciale dans l'économie, puisque c'est, on va dire, c'est le système sanguin veineux de l'économie. Et du coup, quand ça pète, c'est tout pète. Alors que bon, si tu perds un bras, le reste peut continuer à fonctionner.
Toi, tu places de l'argent. Crises, peut y en tu avoir places plein. De l'argent en bourse pour toi.
Alors, je l'ai jamais fait, mais en fait, depuis pas très longtemps, hein, mais depuis peut-être un an ou deux, je me suis mis en tête d'épargner, ce que j'ai jamais fait de ma vie.
Peut-être essayer de mettre 1 000 balles de côté par mois ou...
Ouais, voilà, un truc comme ça, tu vois. Et du coup, j'achète un peu d'actions tous les mois, mais c'est pas pour acheter, vendre.
Mais tu sortes pas, tu revends pas immédiatement.
Non, j'achète des trucs connus, voilà, qui versent des gros dividendes et j'espère les garder 40 ans.
Ça fait sens que... les gens qui, dont c'est le métier de placer de l'argent pour des institutions financières, ne le fassent pas pour eux-mêmes ?
Bah, alors déjà, souvent, il y a des restrictions. Tu dois le déclarer, tu n'as pas le droit sur tout. Tu vois, par exemple, quand tu es trader à la Société Générale, tu ne peux pas, pour ton compte perso, faire des allers-retours sur l'action de Société Générale. Tu vois. Et moi, perso, c'était plus que... J'ai toujours été cigale, quoi. Panier percé... J'aime bien claquer ma thune. Je trouve que l'argent, ça a de la valeur quand ça sort de la poche. Quoi. Quand c'est dans ta poche, ça vaut rien. Et quand ça en sort, c'est là que ça prend tout son sens et toute sa valeur.
Même après la période, quand tu remets la tête hors de l'eau, après la période que nous appellerons carte électron,
ouais.
tu te dis pas « Oh là là, je veux plus que ça m'arrive. »
Si, un peu. Non, mais en vrai, je fais le fanfaron là. Mais oui, il y a un peu de ça aussi. Maintenant, c'est vrai que je suis quand même assez angoissé par ça. J'ai pas envie que ça... Que ça m'arrive à nouveau, surtout que là je viens de me marier, j'ai entamé une nouvelle vie, donc tant que j'étais seul c'était pas très grave, maintenant j'ai pas envie d'embarquer à nouveau quelqu'un, donc oui j'ai envie de nous mettre à l'abri.
Ça Ça a pris du temps pour sortir vraiment complètement de la période de Daesh.
J'ai eu de la chance parce que, je te dis, j'avais ce studio, j'ai plein de gens, notamment des filles, mais aussi des potes qui m'ont aidé. Et en fait, très vite, j'ai commencé à donner des cours en école d'ingénieur et ensuite à la fac. Et j'étais vacataire, donc t'es payé à l'heure. Et donc, psychologiquement, bah, je savais que chaque heure que je faisais, je gagnais tant. Après, je savais que je devais faire beaucoup d'heures parce que, en gros, t'as 6 mois de cours par an, enfin, à la fac, école d'ingé. Ouais, t'as 2 trimestres de 13 à 15 semaines au mieux, quoi.
Mais, donc, t'as intérêt à bourriner des heures.
Donc, tu bourrines des heures. Donc, j'ai perdu 6 kilos. Hein. Et, au pire, je suis monté à 38 heures de cours par semaine, ce qui est énorme. En plus, j'étais à 3 endroits différents. Et en plus, quand tu fais ça, ça veut dire que j'avais 300 élèves, peut-être, et du coup, t'as tous les à côté. Quand t'es en cours, tu peux rien faire. Donc après, t'as tous les mails, les machins, en plus, et surtout, t'as les copies à corriger. Parce que quand t'as 300 élèves, donc en gros, t'as un paquet de 40 copies toutes les semaines. Ouais. Franchement, je corrigeais la nuit. J'ai bossé. J'ai charbonné.
Est-ce que t'as encore l'ambition de vouloir devenir riche ? Comme c'était le cas quand t'étais dans la vie au début.
Ouais, un peu. Non, franchement, c'est moins important que quand j'étais jeune. Non, c'est plus pareil, on va dire. Disons que c'est moins important le boulot pour moi qu'à l'époque.
Mais est-ce que tu pourrais redevenir trader
J'aurais pu rebosser dans des banques en tant que consultant. Et notamment, il y a... Alors, je ne l'ai pas fait parce que, justement, ça... Je me suis imaginé, en fait, on m'avait proposé une mission dans un autre groupe bancaire. Et c'était en banlieue parisienne. Et j'avais hésité parce que je m'étais dit, ça pourrait me permettre de remettre un pied dans la banque. C'est vrai que c'est un milieu où j'ai plus de valeur ajoutée que là où je suis maintenant ou qu'un milieu que je connaissais pas. Enfin, et donc j'avais hésité. Mais en fait, après, je me suis dit, donc tu vas te lever le matin, tu vas prendre le RER, tu vas aller en banlieue, tu vas rebosser dans la banque, dans un truc. Et en fait, ça m'a fait chier, donc j'ai pas fait. Là, on parle que des aspects d'argent, mais ma vie a été incroyable. Finalement, tu vois, j'ai côtoyé plein de gens qui galèrent à la fin du mois et tout, mais qui sont heureux, qui ont des vies joyeuses à Paris. Non, ça a été incroyable.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thunes, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Anna Borel. Le montage est assuré par Tiffany Guillou, accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thunes, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Et ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Et si vous trouvez que votre rapport à l'argent est particulier, ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter, on répond toujours. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google en tapant Thunes Podcast Tipeee avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que thunes continue, je compte sur vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson,
Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.